Bonjour, je suis Olivier. Bienvenue dans le podcast de Nynard Tree. Aujourd'hui, je vais résumer et critiquer le livre, publié sous la direction de l'archéologue Tony Pollard. Culloden, The History and Archaeology of the Last Clan Battle est un ouvrage collectif consacré à la bataille de Culloden, livré le 16 avril 1746 sur Culloden Moor, près d'Inverness. Cet affrontement décisif de la révolte jacobite de 1745 brisa l'espoir d'une restauration des Stuarts et eut des conséquences durables pour les Highlands et le système clanique. Le livre relève à la fois de l'histoire militaire, de l'histoire politique et de l'archéologie des champs de bataille. Son objectif n'est pas seulement de redire un épisode célèbre, souvent chargé de mémoires partisanes, mais de confronter récits, cartes, organisation des armées et vestiges matériels. Les contributions examinent les opérations, les forces jacobites et gouvernementales, le rôle de la cavalerie, les représentations cartographiques, ainsi que la transformation ultérieure du site en lieu commémoratif. L'ensemble montre comment l'archéologie peut corriger, préciser ou nuancer les témoignages écrits sans prétendre les remplacer. Je vais vous présenter les points clés de ce livre. Premièrement, réévaluer Culloden au-delà du récit national et partisan. Culloden occupe une place exceptionnelle dans la mémoire écossaise et britannique. La bataille est fréquemment présentée comme l'écrasement simple et définitif des clans des Highlands par l'État britannique. L'ouvrage dirigé par Tony Pollard part précisément de la nécessité de soumettre cette image condensée à un examen critique. Il replace la défaite jacobite dans la révolte de 1745, dans les relations entre l'Écosse, l'Angleterre et l'Irlande, et dans un contexte européen où les rivalités dynastiques et les calculs des puissances étrangères comptaient réellement. Cette mise en contexte évite de traiter les deux camps comme des blocs culturellement homogènes. L'armée jacobite ne se réduit pas à une armée de clans, et les forces gouvernementales ne sont pas analysées comme une abstraction anglaise opposée à l'Écosse. Le volume s'attache plutôt aux contraintes militaires, aux décisions de commandement, aux divisions internes et aux sources disponibles. Cette méthode est importante parce que Culloden est abondamment documenté, mais ces documents ne sont ni neutres ni toujours concordants. En confrontant plusieurs types de preuves, le livre ne remplace pas un mythe par une certitude totale. Il rend plus visible la manière dont les interprétations se construisent. Culloden apparaît ainsi comme un fait militaire concret, mais aussi comme un événement dont les usages politiques et mémoriels ont durablement modelé la perception. Deuxièmement, comprendre la défaite par les opérations, les armées et les contraintes du terrain. L'un des apports centraux du volume est de considérer Culloden comme une bataille à expliquer par ses conditions opérationnelles, plutôt que par l'idée vague d'une charge héroïque, vouée au sacrifice. Les essais consacrés au déroulement des opérations, à la composition des forces et au récit de la journée éclairent la situation créée avant le choc principal mouvement des armées, marche nocturne jacobite avortée vers Nairn. Fatigue, commandement et choix du champ de bataille. Cette attention aux séquences précédant l'affrontement est décisive, car une bataille ne commence pas avec la première salve. Elle permet de comprendre pourquoi les jacobites, déjà soumis à des difficultés de coordination et de ravitaillement, affrontèrent une armée gouvernementale mieux placée pour employer son artillerie, son infanterie et sa cavalerie. Le livre accorde aussi une place aux formations, souvent moins mises en avant dans les récits populaires, notamment la cavalerie, ainsi qu'à l'organisation des armées. Sans réduire le résultat à une cause unique, cette approche montre que les structures de commandement, la disponibilité des hommes et l'adaptation tactique pèsent autant que le courage individuel. Les cartes accompagnant les analyses rendent ces rapports spatiaux plus lisibles. Le lecteur comprend donc Culloden comme l'issue d'un enchaînement de décisions et de contraintes, non comme l'affrontement intemporel de deux identités nationales. Troisièmement, l'archéologie comme contrôle matériel des récits de bataille. Le caractère distinctif de Culloden réside dans l'intégration de l'archéologie à l'analyse historique. Tony Pollard ne présente pas les découvertes de terrain comme une solution automatique à toutes les incertitudes, mais comme une source indépendante susceptible de tester les récits rédigés après coup. La distribution d'objets retrouvés sur le site, mise en relation avec la topographie et les témoignages, aide à mieux cerner où certaines phases du combat ont pu se dérouler et comment les combattants se sont déplacés. Cette démarche est particulièrement utile pour une bataille dont les comptes rendus ont été produits par des participants, des observateurs ou des auteurs ultérieurs ayant chacun leurs intérêts, leurs limites et leur cadre d'interprétation. Les vestiges ne parlent pas seuls, ils exigent une lecture prudente, car leur position peut résulter des combats, des récupérations postérieures, des transformations du terrain ou des pratiques commémoratives. Le livre insiste donc moins sur la technicité scientifique de chaque méthode que sur ses conséquences historiques. L'archéologie peut confirmer certaines hypothèses, mettre en évidence des incohérences et d'obliger à réviser des schémas établis. Elle rapproche également le lecteur de la matérialité de la violence munition et autres traces ne sont pas de simples illustrations, mais les indices d'action humaine situés dans l'espace. Cette articulation rigoureuse entre objets, terrain et archives explique la place pionnière de l'ouvrage dans l'archéologie des champs de bataille. Quatrièmement, cartes contradictoires, positions d'artillerie et fabrication du savoir historique, les cartes de Culloden constituent un autre dossier essentiel du livre. Une bataille peut être très cartographiée, sans que ces cartes livrent une vérité uniforme, elles peuvent différer quant aux positions, aux distances, aux lignes de troupes ou au déroulement des actions. Le volume examine ces divergences et montre l'intérêt de comparer les plans plutôt que d'en choisir un comme représentation définitive. Les cartes peuvent conserver des informations précieuses, notamment sur certaines dispositions d'artillerie, mais elles sont aussi des documents produits dans un but particulier, parfois proches des événements, parfois rétrospectifs. Elles doivent donc être lues avec la même prudence critique que les mémoires ou les rapports militaires. L'apport de l'archéologie est ici complémentaire, les recherches de terrain permettent de confronter les configurations dessinées aux traces matérielles et aux reliefs réels du site. Cette confrontation transforme une question apparemment technique en problème historique majeur. Situer précisément une ligne, une batterie ou une zone de combat modifie l'interprétation des tirs, de la progression jacobite et des possibilités de manœuvre. Le livre rappelle ainsi que les outils visuels ne sont jamais de simples aides neutres à la lecture. Ils organisent le regard du lecteur et peuvent fixer durablement une version de l'événement, en exposant leurs forces comme leurs contradictions. L'ouvrage donne au public les moyens de comprendre comment se fabrique une reconstitution convaincante, mais nécessairement révisable, d'un champ de bataille. En dernier lieu, du lieu du massacre au paysage commémoratif et au site public. L'ouvrage ne s'arrête pas au 16 avril 1746, il étudie également ce que le champ de bataille est devenu après la défaite jacobite. Cette dimension est essentielle, car Culloden n'est pas seulement un espace où s'est déroulé un affrontement. C'est aussi un lieu de deuil, de mémoire, d'aménagement et de transmission publique. Les contributions consacrées à la mémorialisation, au développement et à la restauration du site montrent que préserver un champ de bataille implique des choix quelle zone protéger, quel récit mettre en avant. Comment rendre le terrain intelligible sans effacer sa complexité ni sa gravité ? Les recherches archéologiques ont alimenté l'interprétation proposée aux visiteurs et permis d'exposer des artefacts qui établissent un lien direct avec les combats. Toutefois, cette présence matérielle ne dispense pas d'une médiation historique. Un objet isolé risque de devenir un simple symbole s'il n'est pas replacé dans les mouvements des armées, les sources écrites et les transformations ultérieures du paysage. Le livre fait donc de Culloden un cas important pour comprendre la gestion des sites de conflit. Il montre que la conservation n'est pas une opération passive, mais une forme d'interprétation publique. Cette perspective aide à distinguer la commémoration légitime d'une simplification patrimoniale qui ne retiendrait que les images les plus émotionnelles. Elle relie ainsi la recherche savante aux responsabilités concrètes de l'histoire présentée au public. En conclusion, Culloden, The History and Archaeology of the Last Clan Battle s'adresse d'abord aux lecteurs intéressés par la révolte jacobite, l'histoire militaire écossaise et les conséquences de 1746. Il conviendra aussi aux amateurs d'archéologie, aux visiteurs potentiels du champ de bataille et aux étudiants qui cherchent un exemple concret de dialogue entre sources écrites, cartes et indices matériels. Sa principale utilité intellectuelle est d'apprendre à ne pas confondre la célébrité d'un événement avec la simplicité de son explication. Le livre permet de comprendre pourquoi une bataille aussi étudiée peut encore faire l'objet de révisions, les témoignages divergent. Les plans se contredisent parfois. Le terrain évolue et de nouvelles données archéologiques peuvent déplacer les questions plutôt que les clore. Par rapport à une histoire narrative classique de Culloden, cet ouvrage se distingue par son caractère collectif et interdisciplinaire. Il ne traite pas l'archéologie comme une annexe illustrée de l'histoire militaire, ni le contexte politique comme un préambule détaché des combats. Les analyses des opérations, des armées, de la cartographie, des vestiges et de la mémoire du lieu se complètent pour restituer les différentes couches d'un même événement. Cette structure exige un lecteur disposé à croiser les approches, mais elle constitue précisément sa force. L'ouvrage offre moins un récit unique et fermé qu'une méthode de lecture critique de Culloden située les sources. Examiner leurs limites et comprendre comment le passé est simultanément combattu, documenté, fouillé et commémoré. Si vous souhaitez soutenir Tony Pollard, vous pouvez acheter le livre via le lien Amazon que j'ai fourni dans la description du podcast. Après avoir lu le livre, faites-moi savoir ce que vous en pensez et partagez vos réflexions. À bientôt.